Salut, on est les Divulgâcheuses. Moi, c'est Anne-Claude.
Moi, c'est Marie-Hélène. Et chaque semaine, on vous parle de télé québécoise.
Salut Marie-Hélène.
Allô Anne-Claude.
C'était la finale d'une de nos émissions préférées cette semaine.
Oh, j'oserais dire notre émission préférée.
Là, avec un grand L majuscule, L'Empereur, donc, qui tire sa révérence parce que c'était aussi la fin de la série.
Oui, après 2 saisons, on n'aurait pas vraiment pu aller ailleurs avec une autre saison, je pense. Donc, je crois que c'est une belle boucle de finir après 2 saisons.
Comment t'as trouvé la finale?
Ben moi, jusqu'à la dernière minute, je pensais qu'elle allait s'en sortir.
Écoute, bip, 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 je bip, criais bip, bip, dans mon
ça,
salon,
ça, c'est mes sacres, mais
pas
je
fort
de
parce que les autres dormaient, mais j'ai comme, pas vrai, il va pas s'en sortir, Tout du long, je me disais, il va réussir à s'en sortir, le salaud.
Quand j'ai vu qu'il a sorti les photos de son fils à l'hôpital pour faire croire qu'il était hospitalisé au Panama, je me suis dit, c'est pas vrai qu'il est prêt à aller jusque-là. Juste pour s'en sortir, mais
bon, c'était
voyons.
Quand même la petite truc que je trouvais un peu invraisemblable, c'est première étape, t'appelles la mère du jeune, voir si c'est vrai.
Oui, mais c'est, puis le pire, c'est qu'ils ont vraiment fait des vérifications, tu sais, puis j'ai compris d'avoir appelé le médecin en premier, dans le sens où comme c'est lui la source numéro 1 d'information. Mais là, je me suis dit, voyons, il va pas réussir à faire passer ça. Puis tu sais, il a menti même à son avocate, puis tout, là, pour cette subterfuge-là, il est vraiment prêt à tout. Puis quand elle l'appelle et qu'elle dit le lien de confiance est rompu, je me suis dit, là, il va se ramasser au procès avec un autre avocat qui, tu sais, qui connaît pas sa vie. Ouais. Qui est...
Bon, je dois dire que quand tout ça arrivait, il restait 10 minutes 52 à l'épisode.
Puis on se disait, voyons, le procès.
Comment on va rapper ça en 10 minutes? On a réussi.
On nous a pas montré le procès.
Puis c'était correct aussi.
C'est correct. Moi, j'aurais quand même aimé ça y assister. Mais en même temps, on avait déjà vu Rosie témoigner. Ouais. On avait déjà vu, tu sais.
C'est sûr que j'aurais vraiment aimé le voir lui. Quoi qu'il l'aurait peut-être pas mis dans la boîte non plus. On le sait pas, en fait, s'il a témoigné ou non.
Ouais. Mais je pense que j'aurais quand même aimé ça le voir. Mais en même temps, je comprenais le choix de dire, regarde, après tout ça, là, voici le verdict.
Puis on avait déjà vu le procès de Manuela, vu l'enquête préliminaire.
C'est ça, donc on en avait vu quand même suffisamment. Donc juste de nous montrer le verdict, je pense que ça a été intéressant. Pour moi, la scène la plus marquante, c'est de voir les 6 victimes marcher dans le palais de justice ensemble, enlever leur manteau avec le t-shirt écrit « Rosie Savard-Hébert, victime ». Ça m'a shaké, puis je me suis dit hey, « j'espère tellement que leur recours collectif va marcher. » Finalement, l'auteur nous a laissé sur un suspense. Parce que là, ce que j'ai trouvé intéressant aussi comme procédé, elle a fini l'émission avec, vous savez, les textes à l'écran, comme à la fin d'un film Histoire vraie. Là.
Ben oui.
Quand c'est inspiré d'un fait vécu, souvent à la fin, on nous dit « La famille vécue heureux jusqu'à telle affaire. » En 1992, il commença son entreprise. Là, on nous a fait tout ça comme si c'était une vraie personne.
Je sais, moi aussi, ça m'a marqué. Je me suis dit « OK, on est allé ça un peu comme on a fait dans Désobéir Chantal Daigle, parce que ça, c'était... »
Ça, c'est une vraie histoire.
Histoire vraie.
L'histoire de Christian Savard est inventée, fait que ça m'a quand même fait sourire un peu. Je me suis dit « OK, parce que en même temps, ça pourrait être l'histoire de tellement de monde. » Que ça pourrait être un fait vécu, cette histoire-là.
Mais est-ce qu'on a laissé la porte ouverte pour faire peut-être la saison 3 sur le recours collectif?
Je ne pense pas.
Je pense pas que ça se passe, mais...
Je ne pense pas. C'est juste écrit, le recours suit son cours.
Ouais.
Bon. Michel Allen, de ce que j'ai lu en entrevue, boucler la boucle avec ça, là, il n'y a pas question de la saison 3.
C'était correct, parce que... Il est en prison,
oui,
c'est ça qui est
ça. Puis juste de le voir assis dans sa cellule, recevoir son lunch pas mangeable, ça m'a fait du bien, avec Claude.
Bon, on a quand même réussi à nous livrer des petites parcelles d'humanité chez Christian Savard qui a fait que j'ai eu le goût à un moment donné d'en avoir pitié. Puis là, je me suis ressaisie en disant non, il est l'architecte de son propre malheur. C'est un psychopathe narcissique, pervers narcissique. Mm. Mais entre autres, quand il réalisait qu'il ne verrait plus ses enfants. Mmh. C'est vraiment les scènes avec ses enfants que je trouvais
Que lui ne voyait plus ses enfants, je n'avais aucune pitié. J'avais pitié de ses enfants.
Ouais, c'est
il
ça.
Ne verrait plus leur père. Mais lui, j'étais comme « tu mérites juste ça ». Tout comme le grand-père. Bon, finalement, je ne pensais pas qu'elle allait se tuer quelques minutes plus tard dans un accident de la route après avoir consommé. On s'entend. Ouais. On l'a vu boire du fort. Puis après ça, on a appris qu'il était mort dans l'accident. Je pense que c'est le seul bout où j'ai eu un petit peu d'humanité en moi, c'est quand il est venu cogner à la porte pour leur annoncer ça à tout le monde. Ça a venu gâcher la fête de sa sœur. Mais, tu sais, honnêtement, là, je me souviens pas d'avoir haï un personnage de même dans ma vie.
Ouais. Mais comme je dis, je m'en voulais d'avoir pitié de lui. Puis en même temps, je pense que c'est ça la vraie vie aussi.
Ben oui, mais il y a personne qui est tout blanc ou tout noir dans la vie, tu sais. Mais quand même, ça fait longtemps que j'ai pas ressenti en moi une haine aussi profonde. Je pense que ça remontait à Dolores Ombrage dans Harry Potter, dans la dernière fois que j'ai haï quelqu'un avec autant de passion. Tu sais, se lever la nuit pour haïr quelqu'un. Tu sais, moi, c'était Christian Savard, ouais, là, comme ouais. Je l'ai haï, là, mais d'une profonde haine. Et d'ailleurs, ça nous mène à un vote déchirant, Anne-Claude, parce que aujourd'hui, l'émission C'est juste la TV a dévoilé les finalistes à son gala Les Appets d'or. Donc, à chaque année, l'émission C'est juste la TV, animée par Anne-Marie Wittenshaw, fait un gala où ils donnent leurs appets, leurs télécommandes dorées à plein d'affaires. Ça peut être des prestations dans des numéros de variété, ça peut être vraiment tout ce qui s'est passé à la télé.
Ouais, il y a 5-6 catégories à peu près.
Ouais, même un petit peu plus que ça, je pense. Puis ma catégorie préférée, c'est le détestable de l'année. T'sais. C'est la personne qu'on a haï le plus. Puis moi, je me suis dit, c'est Christian Savard. Mais, c'est sûr, c'est aussi, Christian Savard.
C'est le premier nom sur la liste. J'étais comme, Christian Savard, all the way. Puis là, on a vu les nommés. Il s'est écrit du bon méchant cette année.
Mais
là.
C'est un art, écrire un bon méchant. Là. Puis il y en a beaucoup cette année. Les autres nominés?
Oui, il y a François dans Avant le crash, oh. Que toi, t'as haï d'une haine viscérale aussi. Oh mon Dieu! Que moi, j'allais plus en nuance là, envers François, oh, quoi non, qu'à lui, la fin, il a dépassé une ligne. Jean-Guy Tremblay dans Le choix de Chantal Daigle.
Oui, dans Désobéir. Ouais,
hey, lui
ouais,
aussi,
ouais.
C'est un...
Oui, je l'ai haï aussi, mais... Peut-être pas aussi intense. Je l'ai haï, là. Mais ouais, ouais. Pas genre, ça me brûle pas à l'intérieur. Mettons.
Après ça, dans Une affaire criminelle, le personnage de Pierre-Yves Cardinal, qui était aussi très détestable, qui faisait subir de la violence à sa femme.
Ah, ouais.
Yark. Moi, je l'ai beaucoup détesté, lui, mais on dirait que c'était sur une moins longue période. C'est Christian Savard, vu que ça a duré 2 saisons, ouais. Puis qu'il réussissait tout le temps à s'en sortir, c'est ça, je pense, qui a construit la haine intérieure pour Christian Savard. Puis le dernier nommé, c'est Benoît Brière dans Indéfendable.
Oh.
Le personnage de Martial.
Ah ouais.
Tu sais, lui, c'était sur une courte période quand même. C'était comme une dizaine d'épisodes.
Même 13,
ça nous a quand même donné le temps.
Détester. Mais non, mais tu sais, une personne de même, genre, c'est haïssable. Puis tu sais, j'en reviens à dire. Les auteurs qui écrivent ces personnages-là, chapeau.
Oui, mais c'est jouissif. C'est ce que nous disait Pierre-Marc Drouin la semaine passée, si vous n'avez pas entendu l'entrevue avec l'auteur de Doutes raisonnables. C'est libérateur de construire un personnage qui est à l'inverse de nous. Parce que nous, tu sais, la majorité des gens essayons d'être gentils, d'avoir une bonne vie, d'être empathique. Mais d'écrire un personnage qui n'a rien de ces qualités-là, j'avoue que ça doit être... Ça doit être quelque chose. Mais Michel Allen, pour le personnage de Christian Savard et l'interprétation de Jean-Philippe Perra, juste dans les tons de voix puis la façon dont il se présente, tu sais, c'est...
Moi, c'est son rire. Tu sais, son espèce de rire comme arrogant quand il y a quelque chose qui se passe pas bien, mais que lui, comme ça l'excite, là, ces affaires-là. Ce rire-là, je suis pas capable. Il me glace le sang. Puis là, l'autre fois, j'ai regardé en direct de l'univers, puis c'était Jean-Philippe Perra l'invité, puis il a ri un peu semblable, puis je me suis dit « Oh non! » J'avais envie de... Je ressentais Christian Savard à travers lui, puis Jean-Philippe Perra, tu sais, il a l'air doux comme un agneau, super fin. Puis là, j'ai entendu cette espèce de petit rire-là qu'il a de... En tout cas, ça m'a troublée, parce que je pense que c'est le genre d'acteur que je lui souhaite d'être capable de se détacher.
Ouais. Je pense que oui, par contre, parce que justement, il a tellement joué d'autres types de personnages sweet. Ce qui me faisait lever le poil, là, c'est la façon dont il changeait de registre de voix.
Ouais.
Tu sais, quand il voulait asseoir son autorité, il montait d'une coupe d'octave.
Ouais.
Je sais pas c'est quoi, comment ça marche les octaves. Là,
non, c'est pas une coupe d'octave, c'est impossible, mais il montait d'une coupe de tonalité, mettons.
Puis là, c'est comme, il parlait fort, puis c'est moi qui va... Puis là, je...
Quand il laissait un message vocal.
C'est qu'on comprenait...
Hey, mon ami, c'est Christian Savard! Ah, je l'ai eu, là, tu n'as même pas idée, là, mais ça n'a pas de sens.
Le personnage était tellement bien construit, tellement bien joué, qu'on comprenait que les gens puissent lui faire confiance.
Ouais,
parce qu'il était tellement charismatique.
Ben oui. manipulateur aussi.
Parce qu'il y a beaucoup de personnages de méchants qu'on se dit, ben voyons donc.
Ils ont zéro nuance.
Tu sais, comment ça se fait qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a remis à sa place à un moment donné? Mais lui, la façon dont ça, le personnage s'est bâti depuis la saison 1, on comprenait. Puis même si on trouvait Coralie un peu nounoune de s'installer chez eux, on comprenait qu'elle soit tombée sous le charme de cet homme-là au risque de le défendre contre l'indéfendable, tu sais.
Non, non, ça a vraiment été, en tout cas, je pense, une série qui a remarqué la télévision moderne au Québec. Tu sais, ces deux saisons, c'est peut-être pas un énorme impact comme quelque chose qui en aurait duré 6-7, mais...
Prends Fugueuse, qui est de la même auteur.
T'as raison.
Ça a été une saison... En fait, il y a eu une deuxième saison qui a peut-être été moins bien réussie, là, selon les critiques. Moi, je l'ai pas vue.
Moi non plus.
Mais, même si j'ai pas vu Fugueuse, ça... Tout le monde parle de ça.
Ben
quand on parle des réseaux de prostitution,
puis
comment ils fonctionnent pour recruter des filles, puis ça a été seulement quelques saisons. Pour moi, L'Empereur, c'est du même niveau, puis c'est la même auteure en plus.
Ouais, ça me fait penser que dans un épisode de Léo, à un moment donné, il y a une adolescente qui s'en va s'installer à Montréal pour aller aux études, et le personnage de Marc Labrèche dit « Allez, va-t'en pas en ville, là! La petite Fugueuse, c'est ça qu'elle a fait! » Puis, tu sais, fait que c'est comme c'est passé dans la culture populaire. Oui. Fait que je pense qu'effectivement, ça se pourrait que L'Empereur, ça reste comme ça. Comme je te dis, moi, mon plus grand souhait, c'est que Jean-Philippe Perra réussisse à se défaire de cette image-là. Parce qu'il y a des personnages comme ça que j'ai bien de la misère. Tu sais, je vois encore Vincent Leclerc comme Séraphin Poudrier, comme je pense pour toujours. Puis Vincent Leclerc, j'ai vu dans plein d'autres affaires, il était super bon. Mais à chaque fois que je vois la face, c'est comme « Ah, oh, Séraphin! » Tu sais, c'est comme des rôles qui, on Marquant, dirait, qui restent, c'est ça, après ça, accrochés après ces gens-là. Mais... J'ose espérer qu'on va revoir Jean-Philippe Perra rapidement dans d'autres projets pour qu'on réussisse à s'en détacher. T'sais, bon, on va le revoir bientôt, j'imagine, dans la deuxième série Nuit Blanche, qui est supposée arriver éventuellement sur Prime Video, je ne sais quand.
Mais je souligne aussi la performance de l'actrice qui joue Rosie, qui a été criante de vérité tout au long de la saison. Elle aussi, on l'a vu, les hauts et les bas, les montagnes russes qu'elle a vécu, des moments très difficiles. À un certain moment, elle se ressaisit. Donc... vraiment une belle série qui était nécessaire, je pense.
Oui.
Et c'est drôle, ben drôle. Non, en fait, c'est pas drôle du tout. Je suis en train d'écouter un podcast américain sur Michael Jackson qui s'appelle Think Twice, si vous cherchez un balado. Puis ça revient entre autres sur toutes les allégations d'agression sexuelle contre Michael Jackson. Puis une des choses qui est marquante, c'est à quel point on n'avait pas la même approche par rapport aux victimes. Tu sais, maintenant, généralement, en tout cas le plus possible, on essaie de croire la victime et faut déboulonner son témoignage, disons. Mais à l'époque, tu sais, je donne un exemple, il y a un des enfants qui témoigne puis il rit un peu, tu sais. Mais c'est prouvé maintenant que c'est normal parce qu'ils sont mal à l'aise. Puis c'est une réaction normale. Mais à l'époque, c'est comme, mais voyons, c'est sûr que c'est pas vrai, tu sais.
Il rit, il
fait ça de même. Je ne referai pas le procès de Michael Jackson. Ne me poursuivez pas pour des millions de dollars en diffamation, mais c'est simplement pour dire que le rapport aux victimes alléguées d'agression sexuelle n'est pas le même.
Ben, surtout depuis MeToo.
Puis ça dure de... Tu sais, ça, il y a 20 ans, là, à peu près. Là.
Oui, mais il y a 10 ans, c'était pas comme ça.
Exact.
Vraiment, le mouvement MeToo a tout changé, je pense. Puis, tu sais, on voyait dans l'histoire de l'Empereur des histoires qui auraient pu être n'importe quelle qu'on entend aux nouvelles. Tu sais, c'est ça qui est particulier, puis... Je pense quand même que ça va peut-être aider aussi à avancer la cause. Tu sais, des fois, la fiction aide à avancer dans la réalité. Puis je le souhaite profondément parce que c'est vraiment une œuvre qui, une fois que tu es embarqué dedans, tu n'en ressors pas indemne, j'ai l'impression. En tout cas, moi, c'est comme ça que je tu sais, il y a moi avant L'Empereur, puis il y a moi maintenant, on dirait. Là,
ben, puis pour ceux qui n'ont pas vu la série, c'est encore disponible pour quelques temps sur Nouveau, puis c'est sur Crave aussi. Ça vaut vraiment la peine. C'est 2 saisons, 8 épisodes chacun. Ça s'écoute très, très bien. Mais ça va effectivement vous faire réfléchir sur tous les dommages collatéraux aussi, des choses qu'on voit pas, auxquelles on pense pas. Vraiment, vraiment très bon. Alors, c'est le rideau tombe sur L'Empereur, saison 2. Hey, ça tente-tu qu'on continue avec, justement, les appels d'or?
Hey, ça va être difficile. Il y a des choix déchirants là-dedans.
Écoute, le plus déchirant pour moi, c'est... Ben, il y avait le méchant, mais Christian Savard, pour moi aussi, était une petite coche au-dessus. Personnage fictif le mieux interprété. Attache-tatuque, il y a du talent au pied carré. Alix Mongeau dans La Candidate.
Ah oui. Catherine Chabot.
Qui est extraordinaire. Mm-hmm. Là, encore là, au début, je dis, ah ben là, c'est sûr, c'est elle. Puis là, j'ai vu les autres nominés. OK, oups. Il y en a quand même quelques-uns. Bon, Suzanne Clément dans Stat, j'aime bien, mais pour moi, c'est pas une interprétation qui change le fil. T'sais, je trouve que c'est les intrigues qui sont bons, la chimie entre les personnages, ouais. Tout ça. J'aime beaucoup Suzanne Clément. C'est pas du tout que je l'aime pas, mais pour moi, cette catégorie-là, c'est pas nécessairement mm-hmm. la sienne. Karine Vanasse dans Avant le crash, un peu la même chose. Très bonne dans son rôle, ouais. Mais est-ce qu'elle ressort du groupe d'acteurs qui était formidable dans Avant le crash? Je trouve que c'était un ensemble là, qui faisait que c'était bon.
Ouais.
Christine Beaulieu, L'œil du cyclone.
Ah, oh, je l'aime assez.
On là-dedans. L'aime tellement.
Et qu'elle est bonne.
Tellement naturelle. Par contre, c'est un style peut-être plus comique, plus léger. Mm-hmm. Alors, moi, mon choix va au dernier nommé, Pierre-Luc Fong dans Plan B.
Ah oui.
Ça jouait entre Alix Mongeau et Jessie Bonin.
Jessie Bonin, je m'excuse, mais c'est un des personnages les plus troublants qu'on a vu des dernières années. Pas dans le même sens du tout que Christian Savard, mais dans le sens où un petit poké, là. Tu sais, qui a vraiment pas eu la vie facile.
Puis lui aussi, t'as le goût des fois de le shaker puis de dire, ben voyons donc, pourquoi tu prends des aussi mauvaises décisions?
C'est ça. Mais en même temps, tu comprends quand tu vois un peu son passé, son vécu. Puis tu sais, Pierre-Luc Funk, il est bon dans tout. Il est particulièrement bon en comédie. Mais dans ce rôle-là, je l'ai trouvé saisissant. Tu sais, moi, j'avais pas écouté... C'est quoi l'autre émission où il jouait un méchant, là? Mémoire vive,
c'est
bon, ça, moi,
je l'avais vu,
Moi, je l'ai pas regardé, mais je me souviens qu'il avait gagné un Gémeaux devant Guy Nadon. Tu sais, je m'étais dit, tabarouette, il devait être bon là-dedans.
Puis là, tu sais,
en le voyant dans Plan B, j'ai compris tout son talent dramatique, en fait, à Pierre-Luc Funk. Puis pour moi aussi, c'est mon choix, mais Catherine Chabot arrive vraiment pas loin. Derrière, d'ailleurs, à chaque fois que je regarde la candidate, je fixe ses lèvres avec son crayon contour et je suis comme ça revient pas à quel point ils l'ont grimé. Tu sais, tu la revois après ça dans l'aréna puis elle se ressemble comme pas, là. Tu sais, c'est pas la même personne. Fait que deuxième position, Catherine Chabot, vraiment de loin, là, pour ça. Il y a vraiment plein d'autres affaires, là, dans les appels d'or.
Je les ai comptées.
Il y a des affaires comme les moments les plus croustillants, tu sais, Gardez-les votre anglais de Marc-Antoine Decoy à la Coupe Grey.
Mais oui, moi, j'ai voté pour ça, c'est sûr. Moi, en tant que fan de football.
Moi, j'hésite entre ça et Bernard Drainville qui a chanté L'Amérique pleure au complet en conférence de presse. Ça, pour moi, c'est dur à battre en frais d'affaires malaisantes que j'ai vues dans ma vie. J'ai pas été capable de le regarder au complet. En fait, c'est comme regarder un accident de char. J'étais pas capable de détourner le regard, mais j'étais pas capable de regarder non plus. Fait que, tu sais, ça fait partie de ça. Puis, il y a plein d'autres affaires, là, des prestations musicales, là, entre autres.
Oui, bon, les sketchs, il y a le sketch.
Oui, des sketchs humoristiques. RDG. Pourtant, c'est pas mon préféré du Bye Bye, mais bon, ça a été choisi.
Tu vis pas dans le magasin!
Ça a été choisi quand même. Fait que c'est ça, allez voter. Vous avez jusqu'au 10 mars pour voter pour les appels d'or. Moi, j'aime ça quand mon vote peut faire peut-être pencher la balance pour quelque chose.
Bon, parlant de vote, décidément, vous allez être occupé cette semaine, là, vote par-dessus vote. On a toujours notre championnat des séries comiques du Québec. Et je dois dire que la nostalgie semble avoir pris le dessus dans le concours. Ma grande surprise, moi, de la ronde 2 à 3, c'est que Kilomètre Heure a battu Lâche et Prise. Je l'avais pas vu venir.
OK.
Peut-être parce que j'ai pas tant de souvenirs de Kilomètre
Heure. Oh mon Dieu, OK.
Ben, j'en ai. Je les vois assis dans le garage, sur le divan, puis aller se prendre une petite frette.
Tu te rappelles pas au bureau, mettons, du magazine? Puis... Hey, moi, j'ai des acteurs de ça qui, pour moi, sont identifiés à vie. Titlaine, je suis désolée, je sais même pas le nom de l'actrice. Jamais je ne pourrais penser à autre chose qu'à Titlaine. Gilbert Thorpe, à chaque fois que je le vois, je pense juste à son personnage. J'oublie le nom, là, mais tu sais, qui était super pogné, justement.
Oui, 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 oui.
Sortait avec Titlaine, justement. Puis, tu sais, dernièrement, la madame qui a fait de la ricine, là, dans le stage, j'étais comme, hey, Roxane, la patronne dans Kilomètre Heure. Moi, c'est comme, ils sont associés à ça pour toujours. Puis, même Gilda Roy, ça m'a pris un temps de me détacher de son personnage un peu simplet, toujours prêt à offrir une petite frette dans son garage. Fait que, tu sais, je comprends l'effet nostalgie de ce côté-là. Pour moi, Kilomètre Heure, mettons, de cette époque-là, c'était dans les bonnes affaires qui se faisaient.
Ouais. Moi, c'est ça. Je pense que j'aime vraiment plus que ce qui se fait en humour maintenant, que je trouve plus fin, qu'on joue plus avec les deux côtés émotion
tout à fait. Et humour. Si je regardais ces séries-là aujourd'hui, je les trouverais beaucoup moins bonnes. Mais l'effet de il y a 20 ans, c'était ça qui était hot. je le comprends parce que, tu sais, moi, comme je dis, je vais toujours voter pour Dans une galaxie près de chez vous.
Qui est contre kilomètre-heure?
Donc... Oh mon Dieu! Gros dilemme. Non, non, pour moi, c'est Dans une galaxie, mais tu sais, je comprends ce que tu veux dire. Là, le cœur a ses raisons, a fait une avancée quand même, mais oui, contre là, les beaux malaises. Là.
En ce moment, le cœur a ses raisons est en avance devant les beaux malaises.
Qui, pour moi, les beaux malaises, je me répète encore, et ce qui s'est fait de meilleur ben, à peu en près cas, en comédie d'un dernier
moi, c'est sûr que mon vote va au beau malaise. Ouais. Donc, si vous voulez sauver les beaux malaises dans le championnat des comédies, rendez-vous sur notre page Facebook. Le lien est très facilement trouvable pour aller voter, pour se rendre quand même en demi-finale. Mm-hmm. Puis quand je dis l'effet rétro, là, la petite vie est là, les parents sont là, CA est là. La seule chose plus contemporaine qui a réussi à se rendre à la ronde 3, c'est l'œil du cyclone. Mm. Puis bon, les beaux malaises, si on met ça dans le contemporain.
Ben oui, là, c'est 2018, même, là, ouais. Ça fait pas si longtemps que ça.
Pour le reste, c'est pas mal ce qu'il y a de,
ouais.
De
okay. Plus vieux. C'est intéressant. On verra pour la prochaine ronde.
Mais là, le pire, c'est que je me suis mis à penser à plein de séries qu'on n'a pas mis parce qu'évidemment, il s'est fait plus que 32 séries comiques au Québec. Mm. Mais il y a Caméra Café.
C'est vrai, on a oublié ça.
Caméra Café.
Oui, on avait oublié ça complètement. Mais parce qu'on fait ça aussi, on fait une reprise puis ça a pas marché.
Il y avait plein d'affaires. Boomerang, moi, je me suis souvenue avec Antoine Bertrand. Puis
oui, puis comment ça s'appelait l'émission avec Anne-Elisabeth Bossé, que sa mère c'était Guylaine Tremblay qui jouait dedans. Où on a appris le terme complimarde.
Oui, oui, oui. Hey, puis il y avait les Simones.
Ah oui, mais je vois pas les Simones comme une sitcom par contre.
Oui. Mais c'était des 30 minutes.
Oui. Je le vois pas de la même façon en tout cas, bref. Que ces séries-là. Mais tu sais, il y aurait tellement d'affaires qu'on aurait pu mettre. On fera une autre ronde.
Ben oui, on va refaire un autre.
Ce sera le 16 au lieu de 32, les oubliés, peut-être. Mais la ronde des oubliés. Puis après ça, on va faire les dramatiques. Puis on va faire.
On fera peut-être les séries plus comiques, mais d'une heure. Parce que je veux dire, il n'y a pas série noire là-dedans. Puis c'est comme ça que je t'aime.
C'est vrai.
C'est comme ça que
la candidate même. Là,
saison 3 qui arrive sur l'extra. D'ailleurs, mm-hmm. J'imagine que ça va se retrouver à la télé à l'automne prochain. Mm-hmm. J'ai hâte.
Moi aussi, j'ai hâte de voir cette troisième saison.
Mais faut se mettre dans l'ambiance, là, parce que il y a des gens que je connais qui trouvent ça, qui peuvent pas comprendre qu'il y a des gens qui aiment ça.
C'est comme ça que je t'aime?
Oui.
Oh mon Dieu.
Mais je comprends, parce que si tu te mets pas en mode...
Absurde.
Ouais. Tu sais, un peu comme Série Noire, à la limite.
Oui, ben oui.
Puis même comme Les Invincibles, qui était la première série mm-hmm.
Mais c'est que c'est des émissions au deuxième puis au troisième degré. Tu sais, il faut pas prendre au pied de la lettre tout ce qui se passe là-dedans. Puis c'est ça qui fait que c'est bon. C'est que au moment où tu te dis, non, ça se peut pas. C'est pourquoi ces gars-là deviennent des criminels? Voyons, ils ont pas le look pantoute, ils ont pas le profil. Ils sont juste criminels 3 semaines par année. Qu'est-ce que c'est ça? Mais tu sais, si t'acceptes la proposition, puis tu te dis, hey, j'embarque dans ça, c'est comme si c'est du pur génie, là, cette affaire-là. Tu sais, toute l'année, ils sont bien normaux avec leurs enfants quand les enfants sont au camp de vacances. La coke, les meurtres, en ouais, donc. Tu sais, juste l'absurdité de ça, pour moi, c'est du génie. Puis le
caïd, il fait du slide.
C'est le pen slide.
Le pen slide.
tout ça est bon, je dirais. C'est ça. Moi, c'est direct dans mes cordes, mais à la limite, je comprends les gens qui embarquent pas dans la proposition, mais faut ouvrir ses ailleurs un peu puis embarquer dans ce genre de folie, comme on l'avait fait avec Série Noire, entre autres, là, par exemple.
On dit « fuck son pH ». Moi, Guinadon, là...
Guinadon, là-dedans.
C'est Série Noire, là, pour moi. Mais même s'il est très bon dans Projet Innocence, aussi.
Ah oui, on voulait parler de Projet Innocence, Anne-Claude.
Oui. Je suis mêlée comme un jeu de cartes.
Comment ça trouver qu'il y a trop d'intrigue?
Écoute, il y a deux séries en ce moment où on ouvre des portes qu'on referme pas depuis le début. Mm. C'est La Faille à TVA, qui est sur le Club Illico depuis un bout de temps, puis Projet Innocence. Deux séries que j'aime,
oui.
Que je continue à suivre, mais que là, il va falloir qu'on ferme quelques fenêtres et portes là, pour être...
Bon, La Faille, on l'a pas regardé hier, là. Fait qu'on précise tout de suite qu'il y a pas... On a une semaine de retard, peut-être qu'il y a eu des affaires qui se sont closées cette semaine, mais... dans La Faille, à chaque semaine, il arrive un élément de plus que je suis comme
« Non, puis c'est, tu sais, je suis tout le temps « C'est le gars à qui, ça? C'est dans quelle famille? »
Quand il y a
c'est
trop de personnages... Tu vois, ça, c'est exactement ça que j'ai vécu avec la saison 2 de La Faille.
Moi, j'étais correcte dans saison 2.
Avec,
mais...
Moi, là, à un moment donné, là, au Château Fontaine, qui s'est mis à avoir trop de monde que je savais pas c'était qui, puis qu'est-ce qu'il faisait dans l'histoire, puis pourquoi qu'il était comme tu peux pas mettre 2-3 personnages qui ont des noms qui se ressemblent puis qui sont anglophones, parce que là, je viens tout mêler. Bon, là, dans le cas de cette troisième saison-là, les Morancy versus les Jolicoeur, c'est déjà quelque chose. Non, là, en plus, tu nous rajoutes les Collins puis les McNeil là-dedans. Puis là, les.
Pendant un bout, je pensais que les McNeil puis les Collins, c'était les mêmes personnes.
Ben, moi aussi.
Puis là, c'est qui McNeil? Il y a l'inceste dans l'histoire entre le frère puis la sœur. Là, la cousine s'est fait tuer. Là, il y a les frères qu'on sait pas c'est quoi leur rôle là-dedans.
Est-ce que le frère Sébastien couchait avec le personnage de Sébastien Ricard? Tu sais, des affaires de même.
Puis là, il ajoute l'affaire de la fille avec un faux accent qui joue l'ami dans l'Empereur.
C'est qui ce monde-là?
Qui, sa mère l'accueille avec un fusil.
Hey, on n'avait vraiment pas besoin.
Perdu, ben raide.
On n'avait pas besoin de l'histoire des frontières américaines.
Non.
Ça nous scrape tout le cerveau. Puis on est perdu.
Tu sais, honnêtement, j'aime des scénarios touffus.
Mm.
J'aime quand il y a du rythme, que ça, tu sais, qu'on fait des découvertes, tac, 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 tac. Je veux dire, je pense que je suis pas la plus épaisse là,
non.
dans la vie. Là. Fait que tu sais, je me dis, si moi je suis perdue, il doit y en avoir une gang de perdus.
Puis l'autre affaire, c'est que moi, ça me dérange pas. Ce que j'aime, en fait, même dans une série où il y a des meurtres ou des affaires de même, c'est quand tout le monde pourrait avoir un mobile.
Ben ça, oui, j'adore ça.
Mais là, que tu me rajoutes tout le temps des couches, tu sais, il y a une semaine, on apprend déjà que Gilbert Scott, dont j'oublie le nom, est le fils du curé Marcel Sabourin avec sa mère. Là, t'es déjà comme, oh, un enfant illégitime. Peut-être que la fille de Véronique, c'est pas la nana. La Véronique n'est pas la vraie cousine d'eux. Puis là, tu commences à te poser des questions. Puis là, tu commences déjà à te mêler. Puis t'apprends qu'il couchait avec sa propre sœur, lui, Gilbert Scott.
Oui. Mais qui finalement n'est pas sa sœur.
Mais donc, c'est ça, là.
Oui, c'est sa sœur.
Oui, c'est sa sœur, mais ils ont la même mère, mais ils n'ont pas le même père. Fait que là, t'es là, mais qu'est-ce que c'est ça, là, de les voir, regarder par la fenêtre, voir tous leurs enfants jouer ensemble, puis être comme ému.
Avec le rajeunissement semi-réussi.
Moi, c'est, pour vrai, c'est trop pour moi. Pour reprendre cette phrase, c'est beau malaise, c'est trop pour moi. Projet Innocence, moi, je suis encore...
Moi aussi. C'est moins pire, mais...
Mais c'est vrai que c'est une série où on ouvre tout le temps les portes.
Tu sais, encore là, cette semaine, je veux dire, c'est quoi le rapport du motard qui essaie d'aller voler des affaires chez la fille? Parce que là, le chef de police est peut-être impliqué là-dedans. Puis là, on comprend à peu près à la fin qu'il est peut-être même impliqué dans la mort de d'autres policiers pour avoir accès au poste de policier. Mais là, en plus de ça, le deuxième échantillon de sperme sur la victime, c'est le mari de la femme qui finance... Tu sais...
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup d'affaires.
Je l'ai déjà dit que je trouvais qu'il y avait un peu trop de coïncidences ou de liens entre le monde.
Mm-hmm.
Puis que si... Tout ça se rattache à un moment donné, puis qu'on comprend que tous ces liens-là étaient voulus depuis le début, je vais crier au génie.
Mm.
Je vais être la première à être flabbergastée. Mais là, en ce moment, je suis juste... Tu sais, pourquoi on se concentre pas sur la cause puis sur les preuves qu'on est capable... Parce que tout l'aspect, essayer de trouver des nouveaux éléments de preuve, je trouve ça super intéressant. Mm-hmm. Puis même s'il y en a plusieurs, puis qu'on suit plusieurs pistes, ça, je comprends, parce que c'est ça le but du projet, c'est de trouver plein d'autres pistes. Mais l'espèce de bruit autour, encore là, je suis perdue.
Ce que j'ai aimé, moi, par contre, dans l'épisode de cette semaine, c'est cette espèce d'esprit de famille qui est en train de se développer. Tout le monde mange autour de la même table.
Le couscous.
Il y en a deux qui vont rester ensemble. Bon, le couscous qui a été nommé après 30 fois, est bon ton couscous.
C'est sûr, ça va frencher, là.
Bon, j'ai hâte qu'il frenche avec le faiseur de couscous, dont j'oublie déjà le nom. Mais, tu sais, ça, j'ai aimé ça, là, tout le monde à table, puis on dirait que la sonnette retentit tout le temps. D'ailleurs, la scène où Guy Nadon se fait dire qu'il bande mou par la serveuse, c'était du bonbon. Tout le monde qui est autour de la table qui veut pas rire, mais qui peut pas rire, là, ça a pas de bon sens. Fait que, tu sais, il y a des petits bijoux comme ça, je trouve, dans cette émission, mais je comprends ce que tu veux dire. Moi, mettons, le monsieur qui est allé voir son père, puis qui est aussi sur la vidéosurveillance, c'est quoi son rapport dans tout ça?
Bon, mais d'ailleurs, vidéosurveillance,
je l'avais dit. Bravo.
Je l'avais dit que je l'avais vu. Mais sauf que, c'est ça, ce gars-là qui était donc en contact avec le père de la fille qui s'adonne et sur le projet Innocence, tu sais, trop de liens.
Il y a beaucoup d'affaires. Puis j'ai hâte de voir comment on va réussir à attacher des ficelles parce qu'il ne doit pas rester une tonne de semaines.
Je pense qu'il reste 2 semaines.
Tu penses? Oh my God.
Il me semble que c'est juste 10 épisodes.
En tout cas, sérieusement, si c'est ça... effectivement, on est mieux commencé à en rattacher des ficelles là, parce qu'on n'arrivera pas à fin dans 2 semaines en comprenant tout ce qui s'est passé. Mais je comprends vraiment ce que tu veux dire.
Bon, la beauté dans tout ça, c'est que habituellement, à ce stade-ci d'une série, j'aurais pas mal une idée de qui a fait ça ou en tout cas des théories. Mm. Là, je suis tellement perdue que je
t'es même pas capable d'en, je suis même pas capable de faire des théories. Non, je comprends vraiment. Fait que, tu sais, c'est des séries, comme tu dis, qu'on n'est pas encore rentré à décrocher. Mais que si boulot, aidez-nous un peu, là, t'sais. Aidez-nous à vous aider.
À... Ben, quelque part, heureusement que ça dure seulement quelques, entre 10 et 13 semaines, mm. Parce que si c'était des affaires qui duraient encore...
Projet Innocence, j'ai hâte de voir si on va faire d'autres saisons, parce qu'il y a du potentiel, là. Ça peut être des nouveaux étudiants, puis un nouveau cas chaque année, t'sais. Fait qu'il y a vraiment un potentiel, là, de faire quelque chose. Fait que, t'sais, ça reste quand même une des émissions que j'ai hâte de regarder dans la semaine, mais effectivement, on commence à être de plus en plus mêlés, comme tu dis, comme des jeux de cartes.
Ça y est, Marie-Hélène, le tueur en série tant attendu est arrivé dans Les Défendables avec sa pipe de crack puis c'est son délire cabalistique.
Bon, Anne-Claude, moi j'adore les histoires de tueurs en série, j'adore les affaires de meurtres et mystères et autres, mais je pensais pas m'embarquer dans une affaire de trip religieux slash trip de crack. Honnêtement, je trouve ça intense, ouais, ouais, là, son intense. Affaire. C'est pas juste un tueur en série, là. C'est un fou braque, là. Genre, ah ouais. Il est à un niveau que j'imaginais pas de folie.
Mettons. Mais moi j'ai aimé ça parce que je suis moi-même psychopathe, je sais pas, envoyez.
Envoyez pas vos enfants. On a tous un intérêt pour ces affaires-là.
Mais j'ai vu beaucoup de critiques, par exemple, ouais. Sur les groupes de fans. Il y a beaucoup de gens qui ont trouvé que c'était très intense pour une émission à 19h.
C'est exactement ça que je me disais. Ouf, me semble que c'est du lourd.
Ouais. Moi, ça m'a pas dérangé parce que de toute façon, je l'écoute pas avec mes enfants. Puis, je veux dire, j'ai vu pire que ça dans ouais. Ma vie. Mais je comprends que c'était quand même beaucoup.
J'ai trouvé ça intense. Je me suis dit, OK, j'espère qu'on le verra pas de même pendant 3-4 semaines, parce que je vais être brûlée. Tu sais, bon. ça me tire du jus, on dirait, de la regarder torturer. Ouais. La pauvre Noémie Hill qui s'est fait kidnapper.
Bon, moi, je dois dire que quand j'ai vu que c'était Annabelle de Ramdam qui se faisait kidnapper, je me suis dit, impossible qu'on soit allé chercher Noémie Hill juste pour qu'elle se fasse tuer, puis que ce soit ça qui est ça.
Non,
fait que tout du long, je me disais... Ça. C'est sûr qu'elle s'en sort, puis c'est elle qui va témoigner contre lui. Puis c'est par elle qu'ils vont réussir.
Oui, moi aussi, quand j'ai vu le choix de l'actrice, je me suis dit, OK, parce que l'autre d'avant, l'agent d'immeuble, c'est la chanteuse country Véronique Labbé qui a joué l'agent d'immeuble, mais on la voit, genre, littéralement une minute.
Ben oui, même pas.
Puis, tu sais, elle disparaît. Fait que ça m'a fait rire parce qu'elle a dit, « Hey, regardez-moi sur Indéfendable, mais comme clignez pas des yeux, tu sais. » Alors, quand, effectivement, il a kidnappé Noémie Hill, je me suis dit, OK, on est allé chercher comme une actrice qu'on voit plus souvent puis qui a fait ce genre de rôle-là. Il me semble qu'elle était dans District 31 comme un des personnages. Oui. La mère d'une...
Ben, elle a joué dans Doute raisonnable où elle touchait son fils puis son ami.
C'est vrai, j'avais oublié ça aussi. Puis, tu sais, moi, dans ma tête, c'est la fille des annonces de BMO en ce moment. Mais aussi, elles étaient cinq, là, tu sais. Fait qu'on l'a déjà vu dans ce genre d'ambiance-là. Fait que j'ai hâte de voir parce que là, bon, elle réussit à s'enfuir sans vouloir vous divulgâcher jeudi. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec ça? Parce que là, le coloc est revenu plus tôt que prévu, fait qu'il va se faire pogner en flagrant délit. C'est peut-être comme ça qu'on va l'amener à se faire accuser. Qui va le défendre aussi, ce gars-là?
Oui, en même temps, il l'a amené chez elle. Je veux dire, la fille, là, elle peut dire là, c'était où qu'il était. Là.
Mais non, puis je veux dire, il y a plein de preuves dans sa chambre. Là, je veux dire,
En fait, une des choses, mais encore là, je sais que je gosse sur des détails, là, mais il n'y avait pas de gants, pas rien en la touchant puis en faisant n'importe quoi. Puis, il a fait plusieurs meurtres, mais ils n'ont jamais réussi à le capturer. Fait que je me dis, il me semble qu'il doit être hyper prudent.
Il doit faire quelque chose, en tout cas, qui fait que...
Sauf que là, il laisse ses empreintes partout sur elle.
Ouais, t'as raison.
T'sais, il n'est pas fiché, sûrement, mais il reste que s'agit qu'il le trouve, puis...
Ouais, puis c'est quoi son obsession avec les lettres grecques aussi? Ça m'intrigue. Il y en a tatoué sur les doigts, puis il les grave sur ses victimes.
Ouais.
Il les brûle. Fait que j'ai hâte de voir un peu c'est quoi sa réflexion derrière ça, parce que pour l'instant, je le vois juste comme... Le gars gelé comme une balle qui
est méchant malade.
Qui tripe Jésus, je sais pas quoi. Là, il a l'air d'en vouloir vraiment à la femme par rapport
ben à sa mère, là, probablement. Là.
Un tueur en série qui en veut pas à sa mère, c'est jamais arrivé, je pense, dans la vie. Fait que, tu sais, je sais pas où on s'en va.
T'as détruit ton algorithme en cherchant si c'était du crack ou du crystal.
Là, c'est parce que je voulais pas chercher ça au bureau. Je me suis dit, d'un coup, il va dans mon historique. Comment fume-t-on du crack? Fait que là, j'étais comme, c'est du crack qui fume, c'est du cristal. Il me semble un cristal, ça se fume pas de même. Mais je suis tellement pas street. Écoutez, toutes mes connaissances viennent de mes autres visionnements de téléséries. Puis là, tu m'as dit, finalement, c'était écrit dans la description de l'épisode. J'aurais dû aller voir.
Dans la description de l'épisode, c'est écrit quelque chose comme accro, crack.
Genre, ouais, okay, c'est ça. Bon, c'est ça me confirme que c'est ça. mais tu sais, moi, là, cet acteur-là, Stéphane Demers, c'est ça?
Oui.
Je sais que c'est Demers, là. Il me semble que c'est Stéphane. Cet acteur-là, déjà, je trouve qu'il a une face à pas fin, là, souvent. Ouais. Tu sais, si tu veux pas, c'est un casting que je pense qu'il a eu souvent. Je suis sûre qu'il est capable de jouer d'autres affaires, puis il l'a probablement déjà fait aussi, mais on dirait que là, en le voyant sur le trip de crack, puis comme sur le trip de je ne sais trop quelle région, là, en tout cas...
Ouais, mais puis, tu sais, clairement, sa santé mentale n'est pas au beau fixe.
Mais non!
Est-ce que c'est ce qu'on va plaider? Parce que là, ultimement, c'est ça l'idée, c'est qu'il va être arrêté éventuellement, mm-hmm. puis il va être défendu par un avocat. Est-ce que c'est André et Léo qui vont le défendre?
Mm.
Puis tu sais, quand on parle de indéfendable.
Et ça va être dur à battre, là. Un tueur en série qui tue que des femmes, qui les mutile, qui il les agresse pas, par contre.
Mais tu sais, c'est là que histoire. Moi, ça me surprendrait pas qu'on y aille avec une défense de troubles mentaux.
Ça se peut.
Ou de non-criminellement responsable. Mm.
Ça se peut.
Donc, en tout cas, ça va être une cause qui va faire réagir. Ça, mm-hmm. c'est sûr et certain. Tout comme ben, les autres causes, notamment dans l'épisode de jeudi aussi, on s'est collé pas mal à la réalité et à l'actualité quand Josh arrive en disant que son téléphone est sous écoute.
Mm-hmm.
Souvenez-vous de Patrick Lagacé, à qui c'est arrivé il y a quelques années. Puis ça a fait scandale d'ailleurs, parce que je veux dire, les sources journalistiques, c'est défendu par la loi, par les chartes, par mm-hmm. tout ce que vous voulez. C'est inacceptable de mettre un journaliste sous écoute. Fait que ça aussi, je pense que ça va quand même être une cause très, très contemporaine et
ouais,
actuelle.
C'est vrai.
Je militais la semaine passée pour qu'on sorte un petit peu des meurtres et des agressions sexuelles. Mm-hmm. Ben voilà une cause super intéressante qui n'a pas de lien avec des crimes violents.
Qui sera probablement pas défendu par nos amis, par contre, parce que lui, ça va être l'inverse. C'est lui qui risque de porter plainte.
Ouais.
Donc, ce sera pas ni Léo ou un des membres du cabinet qui va défendre... Joachim, de son vrai nom. Mais quand même, je pense qu'on va suivre l'histoire parce que c'est un personnage qu'on suit depuis le début.
Mike, on n'a aucune idée de quoi son histoire avec Inès.
On ne le saura jamais, puis ça n'a pas l'air désintéressé de nous le dire.
Non, puis Marianne, là, qui ne revient plus. Là,
ah oui, elle revient.
Mais je sais, mais là, elle appelle pour dire qu'elle ne reviendra plus, finalement.
Mais non, elle revient. Elle dit « je reviens demain ».
Oui, mais après ça, à la fin, elle appelle Léo pour dire « je pense que je vais rester un mois de plus ».
Ben oui, j'ai-tu manqué ça?
Ben, tu t'es endormi.
Je me suis endormi dessus. Bon, ben, coudon, j'ai manqué à la fin.
Ah oui, elle l'appelle Léo, puis elle dit oh, je pense que je resterai un mois de plus. Il dit ben, Maxime, oh, je vais m'arranger avec ça. Sauf qu'effectivement, elle revient dans la série. Fait que là, après ça, je me suis dit est-ce que dans le fond, elle va revenir au Québec, mais elle retournera pas au cabinet tout de suite?
Mm.
Est-ce qu'elle est enceinte?
Oh.
Tu sais, est-ce qu'elle s'est rendue compte en repartant là-bas qu'elle est enceinte finalement? Puis là, elle veut pas le dire, puis elle veut garder. C'était bien relax. C'est ce que j'ai pensé comme théorie.
Peut-être.
Mais peut-être pour avoir.
Écoute, moi, j'y ai pas pensé parce que j'ai manqué.
Tu l'as manqué, c'est ça.
Pourquoi je me suis endormie dessus? Puis l'autre affaire, ben, ça a été le verdict dans la cause de Liam et le plaidoyer de culpabilité de Jérémy Martel.
Qui est arrivé un peu. Ben, un peu vite.
Ben non, mais
non,
oui.
Non, ça
là.
Fait un bout
non,
que...
mais oui. Comme il est arrivé. Il a plaidé coupable.
Non, puis tu sais, c'est pas moi, j'ai été framé. OK, je vais plaider coupable finalement. Fin.
J'ai rien compris. Est-ce qu'on nous amène ailleurs? Est-ce qu'on va le voir retentir parce que finalement, c'était pas son ADN? Est-ce que, tu sais, je l'ignore, mais pourquoi il a plaidé coupable s'il est encore persuadé que c'est pas lui qui l'a fait? Il est-tu dissocié, genre, quand il le fait?
Ou c'est là, il s'est dit, OK, c'est moi finalement.
Ou il a pas de mémoire, il sait pas qui fait ça. Je comprends pas.
Non,
trop.
C'est ça. Non, moi non plus. Ceci dit, la scène où la victime raconte, c'était très émouvant.
Ouais.
Puis ça, j'ai aimé ça quand même qu'on fasse des représentations sur sentence, mm-hmm. parce qu'on l'a pas vu souvent dans Indéfendable, mais c'est ce qui se passe souvent, surtout quand il y a un plaidoyer de culpabilité. Les gens sont quand même appelés pour donner leurs arguments sur est-ce que la sentence devrait être plus ou moins sévère. Puis dans ce cas-ci, bon, la victime est allée raconter un peu tous les effets collatéraux de ce que l'agression a fait. Puis lui, ben c'est ça, me, myself and I, c'était quand même assez frappant.
Ah non, lui aussi, il est assez détestable,
je dois le dire. Méchant, quasiment.
Puis pour l'histoire de Liam, Birubé, je me suis encore dit, bon, Léo, puis André, même s'ils pensaient perdre, ont encore gagné. Oui. C'était pas gagné d'avance. En même temps, tout s'est joué apparemment sur le personnage en jury qui est elle-même probablement trans. En tout cas, Liam spoté que la façon
elle
dont elle réagissait,
bien,
elle sentait pas bien et tout ça. Donc, est-ce que c'est elle qui a réussi à faire pencher la balance? Il dit « je l'ai su tout de suite quand c'est elle qui s'est levée que j'étais acquittée ». Fait que, en tout cas, je me suis dit « bon, mais encore une autre victoire pour le beau Léo ».
Mais au moins, on a compris aussi l'échange de juges, parce qu'au début, on était comme, voyons, c'était pas...
Oui, mais les juges de première instance.
Mais c'est ça, c'est que la première comparution, c'est pas nécessairement c'est le juge ça. Qui va...
Puis un beau petit speech à Paul Doucet, là. Là, by the way, la prochaine fois, tu l'appelles pas madame. Puis, fait que je me suis dit, bon, au moins, le système de justice dans cette scène-là se reprend un peu, parce que le personnage d'Yves Corbeil, je l'aimais pas beaucoup.
Mais c'est sûr que ça doit être comme ça.
Ben, c'est sûr que oui.
Tu sais, des gens plus vieux jeu, puis d'autres plus...
C'est sûr que oui. Fait que, somme toute, ça a été une cause quand même intéressante, mais c'est sûr, j'ai trouvé encore que c'est sûr. L'équipe McDonald's en perd pas beaucoup.
Je te dis que leur ratio de victoire est assez élevé, merci.
Ouais, puis quand ils perdent, c'est du monde qui est sur eux-mêmes. Fait
ouais,
que c'est
mais j'espère qu'ils vont perdre pour le tueur en série, en tout cas, ça, c'est sûr.
Ah oui, ça on le souhaite vraiment. J'ai vraiment hâte de voir qui va le représenter. Puis pendant ce temps-là, à l'hôpital, on passait des entrevues d'embauche, enfin. Hey, fait comme pour le six mois qu'on perd du monde du poste.
Depuis un an. J'adore Stat, mais je pense que c'est l'intrigue qui m'intéresse le moins depuis le début de la série.
Ouais.
J'ai absolument aucun intérêt à savoir qui va avoir ce poste de gestionnaire-là.
Tu sais, ce qui pourrait être intéressant, c'est si c'est Daniel, que là, il passe de l'autre bord, là, parce ouais, qu'il ouais. passerait de représentant syndical à cadre.
Mais sauf que là, il a poussé Sophia
en dessous de l'autobus. En dessous
de l'autobus. Puis en même temps, c'est un personnage qui est polarisant, hein, Sophia. Ça aussi, je le voyais sur les pages de fans cette semaine. Parce qu'il y a certaines personnes qui voulaient absolument qu'elle ait le poste puis qui détestaient Daniel, puis d'autres personnes qui détestent Sophia puis qui trouvent qu'elle est immature puis que ça n'a pas rapport.
Moi aussi, je la trouve souvent un peu...
Moi, j'étais un peu à mi-chemin, c'est ça.
Ouais.
Parce que je veux dire, la fille volait des thèmes de fentanyl il y a 4 minutes.
Oui, c'est ça.
Après ça, d'un autre côté... Est-ce qu'elle peut être une bonne gestionnaire? Sûrement. Elle a du chien. Elle a l'air d'être capable quand même de prendre des décisions.
Mm-hmm.
Mais reste que, tu sais, c'est ça. Elle est quand même souvent un peu immature et jeune.
On l'a vu avec le personnage du père d'Éric qui veut pas se faire soigner par elle parce qu'il dit comme que ça sort de l'école, c'est elle, ça. Que c'est ça. T'es-tu assez vieille pour me faire ça?
Bon, lui, il est détestable.
Oui, il est détestable, mais ça nous a ramené le fait que, tu sais, Sophia a pas beaucoup d'expérience. Puis est-ce que vraiment. Oui, elle semble bien. Organiser et tout ça. T'sais, rappelons-nous du sit-in qu'elle avait fait avec les infirmières.
Mais tu sais, même juste le fait qu'elle dise à Daniel, ben, je sais pas si j'ai encore des chances, j'ai pas couché avec les bonnes personnes. Tu sais, ça, pour moi, c'était un petit peu immature. En même temps, Daniel est pas mieux non plus.
Daniel, en ce moment, s'il a la job, c'est un, parce qu'il couche avec l'adjointe de Mylène Lapierre, et deux, parce qu'il a sauvé le cul à Pascal à Québec.
Ouais. Et trois, parce qu'il discrédite Sophia en disant qu'elle en racontant ça. Mais, tu sais, encore là, quand même, tu sais, il a été représentant syndical depuis longtemps. Il a quand même, tu sais, il est impliqué dans la vie de l'hôpital quand même. Mais ce que j'ai lu et qui, je pense, serait la meilleure alternative, troisième candidat qui sort de nulle part puis qui a ce poste-là, qui amènerait un nouveau personnage. Ouais, là,
parce qu'ils ont interviewé 6 personnes.
C'est ça.
Fait que tout ça peut.
Moi, je pense que c'est peut-être vers là qu'on nous amène en disant qu'il y avait plusieurs candidats, puis là, on a montré les deux qui semblaient un contre l'autre, mais peut-être qu'on va nous amener un petit personnage mystère.
Peut-être, complètement, ça serait intéressant. Dans les autres intrigues de la semaine, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec notre beau Pascal, là, parce que là, son histoire, on l'avait pas trop compris au début, pourquoi il s'était comme... Il est revenu au Québec un peu boubou, puis bon, qu'est-ce qui est arrivé? Bon, finalement, on a fini par comprendre qu'il s'est carrément battu avec monde pour défendre Claude Coupable. Fait que là, il vient-tu de se mettre dans la merde? Il vient-tu de mettre Claude dans la merde? Parce que elle, on le rappelle, sa job est sur la ligne, là, tu sais. Je veux dire, si elle réussit pas à prouver comment ça s'est passé, cette histoire-là, puis qu'en plus, on apprend que Pascal a couché avec, il y a des photos qui existent de ça, tu sais. Fait que là, quand je l'ai vu pogner nerf à Québec, j'étais comme, mais non, Pascal, va pas chercher le trouble avec du monde, parce que là, t'es déjà dans le trouble, là, t'sais, tu peux pas aller plus loin avec ça. Puis comme tu dis, ben là, Jacques Saint-Cyr, rien ne va plus, là. Et non seulement il est enquêté parce qu'il aurait fait des dons à l'hôpital pour acheter le poste de Pascal, mais là, il commence vraiment à comprendre qu'il a probablement tué leur mère.
Ah oui, mais il l'a tué, c'est ça. Mais il abattait, je veux dire.
Oui, ça, c'est clair, là. Mais tu sais, mettre, comment ça s'appelle?
Des anticoagulants.
Oui, dans le sang.
Je sais pas si c'est comme pour pas que ça fasse de bleu ou de faire...
Ou pour pas qu'elle guérisse quand il arrive de quoi. Je ne sais trop J'ai vraiment hâte d'en savoir plus, mais c'est quelque chose, là, cette histoire-là.
Mais Jacques Saint-Cyr aussi, pour aller dans la liste des bons méchants.
Ah
là,
oui, j'avoue, man.
Je le déteste tellement. On le voit pas si souvent, mais là, peut-être que le méchant va enfin s'écrouler.
Ouais.
Moi, j'ai bien aimé l'intrigue du jeune Elliot. C'est oui. ça, Elliot? Quand on a vu le collier arriver, j'ai dit « kit de suicide ».
J'avais même pas ça, que ça existait.
Ben, ça aussi, c'est en plein collé sur l'actualité parce qu'il y a un Ontarien qui a été accusé il y a 3 semaines. Non, un peu plus que ça, si ça, ça a été écrit par Marie-André Lamry, mais il est passé en cours récemment parce qu'il fournissait ça. Il envoyait par la poste des kits de suicide partout dans le monde.
Je savais même pas que ça existait.
Fait que c'est comme, t'écris sur Internet comment se suicider. Voici une pub d'un produit qu'on peut vous envoyer par la poste.
J'en revenais pas.
C'est dément, là.
J'en revenais pas. Puis il s'en souvient même pas. Ça veut dire que c'est quoi la cochonnerie qu'ils mettent là-dedans? Ça n'a pas de sens. Tu sais, son sang était brun quand
mais
il est arrivé.
Mais parce que, tu sais, à quelque part, les idées suicidaires, les idées noires, c'est reconnu que si t'as un moyen à portée de main, parfois, ça va te mener vers le faire. Il y a souvent, les gens ont souvent un plan, mais si ce plan-là ne peut pas se faire à la minute où tu ne te sens pas bien, ben là, peut-être que tu vas demander de l'aide, puis c'est là que tu vas réussir à
probablement, c'est arrivé la première fois qu'il s'est présenté à l'urgence.
Sauf que si, là, tu te dis, je ne veux plus vivre, puis là, tu as ta petite boîte à côté de, justement, le petit kit tout prêt, tu sais, tu veux arrêter de souffrir, en fait.
Ben oui, il l'a dit, là, cette année.
C'est ça que
je dis. Je suis juste tannée, tu sais.
Ah, mais c'est triste, puis ça fait revivre bien des affaires à Steve aussi.
Bon,
là.
Parlons de Steve, ça va pas bien. Il est comme suspendu-ish. Il peut pas opérer pendant au moins 8 semaines, au moins. Il doit consulter un psychiatre pour savoir s'il est apte à faire de la médecine. Puis tu sais, je comprends vraiment, mais je trouve ça tellement dommage parce que c'est un des meilleurs médecins. C'est le médecin qui a le plus son patient au cœur de ses préoccupations. Puis c'est vrai qu'il fait des affaires qui n'ont pas de bon sens. C'est opérer dans 2 salles en même temps.
Mais non.
C'est non, là. Mais de là à dire qu'il pourrait peut-être même perdre son permis, puis tout ça, ça m'a vraiment shaké parce que je me disais, hey, on va-tu retirer de la circulation quelqu'un qui a tellement le patient à cœur, puis qui est by the book pour plusieurs affaires.
Non, et puis qui a, tu sais, je veux dire, il n'a pas fait de faute professionnelle.
Non, tu sais, c'est sûr que c'est.
Il est sur la ligne des fois.
Puis tu sais, je veux dire. Essayer de sauver ta propre femme dans une ambulance, clairement, c'est pas recommandé.
T'es en conflit d'intérêt.
T'es en gros conflit d'intérêt. En même temps, on comprenait la situation parce que, je veux dire, sa femme était entre la vie et la mort. Fait que, tu sais, j'aime de plus en plus Steve Jolicoeur. Je m'attache
tellement
à ce personnage-là maintenant. Dire qu'on l'a ici au début.
Mais tu vois, puis le personnage qui, pour moi, est en train de faire la pente inverse, c'est Isabelle.
Ben, vraiment, pas toujours aimable, hein?
Hey, on l'aimait tellement, puis là, tu sais, je comprends, mais là, on a peut-être vu une petite craque, là, quand la femme dit, n'avez-vous du vrai fun?
Puis ouais.
Tu sais, là, je pense qu'elle se rend compte que elle n'est pas bien, là. Ouais. Elle n'est pas bien dans sa vie en ce moment, là.
En même temps, je la blâme pas, tu sais. Elle a perdu l'homme qu'elle aimait.
L'amour, tout ça, c'est sûr.
L'opportunité professionnelle aussi, tu sais. Son rêve commençait à se réaliser, puis il est arrêté en cours de route. Fait que, tu sais, je la comprends de pas bien filer. Ce que j'aime moins, c'est quand elle décharge tout ça sur les autres, tu sais, parce qu'à un moment donné, je veux dire, c'est pas aux autres à payer pour ce que toi, tu vis. Par contre, j'étais assez d'accord avec elle pour l'histoire de l'évaluation de la dame, Gisèle, j'ai oublié le nom de famille.
Michaud, parce que c'est drôle, il y avait justement 2 Michauds dans le stade cette semaine.
Bon. Fait que ça m'a quand même brassée, parce que là, je me suis dit, hey, si tu te présentes pour aller la voir, puis que la madame, elle se rappelle plus de rien, de fuck all, là, elle peut pas la recevoir, le médical à mourir.
Mais en même temps, quand elle est bien, tu le sais que son éthique, sa décision est vraiment éclairée, mais c'est un cas complexe.
C'est vraiment un vrai de vrai dilemme parfait pour ce genre d'intrigue-là.
Que ça a d'ailleurs fait des petites frictions entre Emmanuel puis Isabelle. Puis moi, j'ai pas haï ça. Puis je suis certaine qu'il y a des gens chez eux qui étaient hyper mal à l'aise parce que les gens aiment pas la confrontation puis la chicane. Sauf que des fois, dans un milieu de travail, puis j'ai aimé ça de voir 2 femmes intelligentes, qui ont un argumentaire, avoir une discussion serrée, mais polie, puis que, tu sais, à un moment donné, on n'est pas tout le temps obligé de flatter tout le temps. Tu sais, non, je suis pas d'accord, voici pourquoi, t'as droit à ton opinion, mais moi, c'est pas la mienne, puis je changerai pas pour te faire plaisir, tu sais. Puis j'ai... C'est niaiseux, mais j'ai aimé cette scène-là parce qu'on voit pas ça souvent. Tu sais, au Québec, on aime ça quand tout le monde s'entend bien, puis tout ça. Puis comprenons-nous bien, je suis pas pour la chicane, mais c'est juste que des fois, faut quand même se dire les vraies affaires. Puis, ben, c'est ça qui est ça. Puis dans le cas de ces deux femmes-là, heureusement, elles s'en voudront pas parce qu'ils sont de même.
Ouais. Mais tu sais, quand la deuxième fois qu'elle veut y en parler, puis qu'elle dit « parle-moi-en pas, on va se pogner », je me suis dit « bon, ça va repartir la discussion ». Mais c'est ça, c'est que je me disais « hey, je penche dans l'équipe à Isabelle ouais. ». Tu sais, puis souvent, Emmanuel a quand même le sens moral très, très développé. Puis là, je la trouvais très, très, très empathique à la dame, mais peut-être un peu trop. Puis c'est là que je me suis dit « est-ce qu'elle laisse son jugement parce que la madame est attachante, puis quand elle est là, elle est toute là ». Mm-hmm. Mais c'est qu'elle n'est pas tout le temps toute là, puis c'est là que ça devient compliqué.
T'arrives la journée de l'aide médicale à mourir, puis elle s'en souvient plus.
Ils peuvent pas le faire, là. Tu sais, c'est ça, là, l'affaire. Fait que j'aime vraiment ça, ce dilemme-là, parce que c'est un enjeu hyper actuel. On connaît tout quelqu'un qui, à un moment donné, va le demander. Puis il faut le faire avant qu'on puisse plus le faire. Puis, tu sais, le projet de loi, il est en train d'étudier ça, là, la question des troubles cognitifs.
Du consentement préalable.
C'est ça. Fait que je trouve ça vraiment intéressant comme débat. Puis en plus, le personnage est super attachant. Ben oui. Fait qu'on a le goût d'être... on voudrait qu'elle soit notre grand-mère.
Vraiment.
Fait que, tu sais...
Ah, et puis un petit mot sur Marco, qu'on a vu un petit peu, mais pas beaucoup. Mais ça va pas bien non plus, notre Marco, là.
Qui sait qu'il a ses bras?
Bon, là, moi, je me suis dit, encore là... pile poil dans l'actualité. La semaine passée, il y a un documentaire qui a joué à Télé-Québec qui s'appelle Adonis sur les troubles alimentaires, mais aussi le surentraînement chez les jeunes hommes, puis sur comment il faut qu'ils soient secs, comme ils disent, comme juste du muscle, puis c'est toujours plus gros, qu'il y en a plusieurs qui prennent des stéroïdes, même s'ils sont conscients des impacts possibles sur leur santé. Il y a des jeunes hommes qui ont eu besoin de greffes de reins ou d'autres maladies graves, mais malgré ça, ils continuent parce que, tu sais, un peu comme l'anorexie, tu te vois pas de la même façon, c'est la même chose. Ils appellent ça la bigorexie. Puis c'est... J'ai vu Marco, puis je me suis dit, on s'en va-tu d'une histoire?
Ben oui, mais son histoire de gym dans le local, puis tu sais, il a l'air d'être dans une pause... Tu sais, ça allait pas bien à maison, fait que là, il s'est comme un peu lancé là-dedans. Mais là, les brûlures, ses bras, c'est quoi? Ça peut-tu être ça, les stéroïdes? Ça peut-tu faire ce genre d'affaire-là?
Je sais pas. Tu sais, peut-être que c'est effectivement ce qu'il a dit, mais que ça cache de façon sous-jacente le fait qu'il veut faire du surentraînement.
Ben oui, parce que lui, il dit que c'est une affaire sain, de technique de récupération, puis tout ça, puis que, tu sais...
Mais comme je dis, je pense que c'est quand même vrai, parce que même Steve dit « Ah ouais, j'ai déjà entendu parler de ça ».
Non, c'est sûr que
ça existe, là. Pourquoi il fait... pour pouvoir s'entraîner encore et encore et encore et encore. Dire qu'il faut que tu t'entraînes sur ton lieu de travail.
À ce point-là. Là.
Parce que tu peux pas t'en passer.
Ouais.
Ça commence à devenir une dépendance.
Oui, non, c'est vraiment intéressant. Puis ça me fait penser, parce que là, on est dans le trouble alimentaire, à Thibault, dans nous.
Oui.
Je veux pas rentrer dans tout nous, là, parce que, bon, ça fait déjà 53 minutes qu'on vous parle. Mais dans nous... On nous amène Thibault vers l'anorexie, puis c'est rare avec les garçons qu'on nous montre ça. Fait que je suis un peu contente, pas pour Thibault,
mais non,
parce que c'est vraiment triste, mais pour, l'enjeu que ça nous amène, parce que les garçons qui arrêtent de manger, on n'en parle pas. À la limite, on parle justement de ces gars-là qui vont se surentraîner, mais l'inverse, qui se privent complètement, c'est très, très rare. Là, on a vu manger genre 2 graines de muffins cette semaine, à peu près, dans toute sa journée. Puis, tu sais, même Camille, elle dit, « C'est ça ton dîner? » Tu sais, c'est une boisson énergisante. Là. C'est une pente très, très glissante pour le pauvre Thibault. Là.
Puis, j'attire votre attention sur un autre balado. Décidément, je fais de la pub gratis pour les autres balados aujourd'hui. Dans le trouble de Geneviève Garon sur audio que j'ai... Écoutez, la semaine passée, j'en ai parlé à tout le monde au bureau. Tout le monde s'est mis à écouter ça. On a parlé que de troubles alimentaires toute la semaine parce que c'est troublant. C'est fascinant dans un mauvais sens. Ouais. Puis, tu sais, je pense que ça fait réfléchir aussi que, quelque part, on est tous à risque. Il n'y a pas une immense part de la population qui va se rendre jusqu'au cas extrême. Mais... pas bien se sentir dans son corps, se culpabiliser sur ce qu'on mange, se dire faut que je m'entraîne, faut que je fasse du sport pour perdre du poids, c'est tout le monde. Puis c'est pas sain jusqu'à un certain point. Puis ça, moi, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur un paquet d'enjeux. C'est vraiment super intéressant. C'est 6 épisodes, je pense. Puis on entend des garçons aussi, on entend des hommes qui en ont souffert aussi de troubles alimentaires. Vraiment, c'est à mettre sur votre liste. Vous allez ressortir de là avec bien des réflexions. En tout cas, moi, nous autres au bureau, là, ça nous a fait jaser de plein d'affaires. Puis tu sais, moi, j'ai deux petites filles, puis je me dis, je veux pas qu'ils grandissent avec l'idée qu'il faut qu'ils changent leur corps. Tu sais, c'est comment on y arrive.
Ouais. Dans le cas de Thibault, c'est un peu différent parce que lui, c'est pas une obsession par rapport à changer son corps, non, c'est qu'il est vraiment en dépression profonde.
Oui, c'est qu'il est... Mais dans le balado aussi, il en parle, puis je pense que Thibault, c'est ça, c'est qu'il sent pas qu'il mérite d'être nourri.
Ouais.
Tu sais, c'est comme à ce point-là, c'est de dire, je vaux rien. Tu sais, je vaux même pas d'essayer de... Tu sais, il veut se faire le plus petit possible, finalement.
Ouais.
Tu sais, au sens... propre comme figuré. T'sais.
Je comprends vraiment. Non, puis nous, j'ai trouvé qu'il y avait eu des enjeux intéressants dernièrement, des enjeux sociaux, puis je vous dis, je veux pas m'étirer là-dessus, mais le personnage de Margot a vécu des affaires rock'n'roll dernièrement.
Lui aussi, c'est un pas pire méchant.
Lui, Guillaume, là, c'est genre
je l'ai haï autant qu'il
le phénomène du gaslighting, là, c'est ce gars-là. Puis quand j'ai vu le viol conjugal, qu'on n'aborde pas souvent
à la
télévision.
Puis qu'on a mis en scène de façon... parfaite, encore
oui,
une fois.
Oui, parce que c'est un viol quand tu dis non, même si c'est ton chum, je vous le répète, là, c'est une agression. Et je l'ai trouvé dégueulasse. Puis après ça, tous les commentaires qu'il faisait, puis toutes les fois où elle s'est sentie comme la marde à cause de ce gars-là. Non.
Puis tu sais, t'as pas besoin de mettre une baffe à quelqu'un pour la détruire.
Non, puis ce personnage-là aurait pu se retrouver aussi dans les détestables de l'année, Guillaume. Tellement. Je l'ai mais vraiment beaucoup. Et là, la scène où il piche des assiettes puis des verres était tellement satisfaisante. Alors, je souhaite à Margot un peu plus de bonheur, mais j'ai trouvé qu'on avait abordé des affaires vraiment intéressantes.
Puis nouvelles, quand même, tu sais, qu'on voit pas souvent.
Exactement.
C'est du lourd, là.
C'est lourd.
C'est très lourd, mais des fois, c'est nécessaire.
Oui, puis c'est à ça que ça peut servir la fiction aussi dans la vie, c'est de nous éveiller à des affaires qui se passent dans la réalité, puis qu'on ignore ou qu'on voit pas parce qu'on est dans une petite bulle, puis là, ça nous est mis dans la face. Oui. Et ça nous fait beaucoup réfléchir.
Tiens, j'ai envie qu'on lance la question, puis ce sera le mot de la fin. On pourra lancer peut-être le débat sur notre page Facebook. Quel événement ou quel phénomène vous a été montré à la télé, puis ça vous a marqué, vous vous en souvenez encore? Parce qu'il y a des affaires qui nous restent. Hein. Moi, je me souviens des filles dans Blanche, là, quand... le prêtre, il avait dit à la madame qu'il fallait qu'elle fasse d'autres enfants puis qu'elle meure en couche. Là. Je me souviens encore de ça, là, puis c'est il y a 25 ans de ça. Là. Ça m'est resté marqué, là, la frustration que j'avais ressentie là, à ce moment-là. Donc, genre de scène qui peut-être vous est restée en tête, parce que la télé, ben, ça sert à ça, ça sert à discuter, ça sert à nous faire jaser de phénomènes et de choses importantes dans la vie. Donc, vous nous suivez sur Facebook, Les Divulgâcheuses. On est sur Instagram aussi. Vous pouvez nous écrire lesdivulgâcheuses@commercial.gmail.com. Merci, Marie-Hélène.
Merci, Annie-Claude.